Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous débattons, nous commentons l'actualité, nous parlions d'ensauvagement, de jeunes de plus en plus violents, nous continuons d'en parler. La France est-elle malade de son insécurité? L'insécurité est-elle un sentiment ou une réalité? On en parle avec vous et avec mes invités. Geneviève Götzinger, bonjour, vous êtes communicante, présidente de l'agence Image. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, bonjour.
Bonjour.
Patrick Mignon, ancien commandant de bord et membre du Parti chrétien démocrate, bonjour à vous.
Bonjour.
Régis de Castelnau, bonjour. Vous êtes avec nous depuis le sud de la France. Vous êtes avocat, votre blog Vue du droit, et on vous retrouve également auprès du Front Populaire, de la rédaction de Front Populaire qui vous a récupéré, voilà. Donc la France est-elle malade de son insécurité? On va parler du grand bazar des tests. Appelez-nous pour témoigner si vous avez voulu vous faire tester. Est-ce qu'il faudrait revoir en fait l'accès libre à ces tests PCR aux personnes symptomatiques? Et puis on parlera également des masques obligatoires en ville. Est-ce que vous respectez ce port du masque? Vous avez vu que hier le Conseil d'État a confirmé l'obligation de porter le masque dans les zones les plus fréquentées. On en parle avec vous. Commençons avec un petit tour de table, Sophie.
Oui, un petit coup de gueule, c'est ça?
Oui.
Un petit coup de gueule. C'est une histoire qui a été révélée ce week-end. Lorsqu'il y a un couple dans le Var, qui a une résidence secondaire, ils arrivent chez eux et ils découvrent qu'il y a des squatteurs, ce qui est arrivé à pas mal de gens. Sauf qu'ils appellent la police pour virer les squatteurs et qu'ils disent « Ah non, je suis désolée, ils sont protégés. À partir du moment où ils sont depuis 48 heures dans la maison, vous ne pouvez pas les virer. Il y a un texte de loi, etc. » Et ça m'a d'autant plus interpellée que cette histoire m'est arrivée il y a 20 ans. J'avais une toute petite chambre que je louais régulièrement et la police m'appelle et me dit « C'est squatté. » Alors je dis, bah écoutez, merci de me le dire, est-ce que vous pouvez les virer s'il vous plaît? Ah, elle me dit, non madame, on n'a absolument pas le droit, ils habitent là depuis quelques temps et ils ont un droit de d'usage. Ils étaient trois dans une petite chambre de 15 mètres carrés, je dis, mais enfin c'est pas possible, comment on fait? Ah, il dit, c'est terrible. Alors, tenez-vous bien, parce que ça c'était il y a donc 20 ans, le commissaire me dit, écoutez, j'ai peut-être une solution, venez me voir. Je vais le voir, il me dit, écoutez, nous avons des videurs de boîte de nuit. Si on les vire avant 6 heures du matin avec toutes leurs affaires, avec un camion en bas qui les emmène dans un endroit où on peut déposer leurs affaires, ça peut marcher. On en était là il y a déjà 20
ans. Là, vous rappelez
là,
cette affaire.
Je rappelle cette affaire.
De ces gens qui ont une résidence secondaire, qui sont arrivés, elle est occupée, ils ne peuvent
alors,
pas.
Alors, Valérie,
pas
je voudrais juste savoir, parce que ça, il n'y a pas une personne qui peut justifier ce type de démarche, de comportement. Pourquoi est-ce qu'en 48 heures dans notre pays, on n'est pas capable de modifier une loi pareille en disant que les gens qui squattent et qui rentrent dans une maison par effraction n'ont absolument aucun droit et peuvent être expulsés dans la journée? Bon. Expliquez-moi pourquoi on ne peut pas. On a un avocat d'ailleurs.
Oui, peut-être que Régis a une explication.
Oui. Alors, c'est n'importe quoi. Sophie a raison. D'abord, c'est un texte qui a été adopté au moment où il y avait la question des sans-abri, etc. C'est comme d'habitude, si vous voulez, les politiques se donnent bonne conscience en faisant supporter aux autres les carences en matière de logement. Alors, on a fait cette belle loi qui est inconstitutionnelle parce qu'elle viole le droit de propriété, excusez, et personne ne l'a soumis par une question prioritaire de constitutionnalité, personne ne l'a soumis au Conseil constitutionnel. Il faut bien évidemment l'abroger en urgence, mais je dirais qu'aujourd'hui, y a deux responsables. Il y a premièrement les forces de l'ordre qui font pas leur boulot, et je vais dire pourquoi. Et deuxièmement,
mais ils peuvent pas, la loi les empêche de le faire.
Hein,
la loi les empêche.
Oui,
la loi les empêche de le faire.
Moi, je vais vous donner. Je suis commissaire de police, je vais vous dire ce que je fais.
Ah.
J'arrive, je dis, je sonne. Les gens, ils ont fait une violation de domicile, ils ont changé la serrure, c'est-à-dire qu'ils ont abîmé la porte. Donc, je suis policier, je rentre, violation de domicile, vous avez abîmé la serrure, j'embarque tout le monde, garde à vue 48 heures, d'accord? Et pendant ce temps-là, la personne récupère sa maison. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, tout le monde s'abrite, les policiers vous disent « on peut pas hein », et les magistrats, qui devraient être saisis de référé liberté dans les 48 heures, ne vont pas le faire non plus. Hein. Donc, il y a une démission absolument totale, et c'est terriblement choquant, parce que vous avez des gens qui sont des retraités, qui reviennent, ils reviennent après le confinement, etc. Moi, je trouve que, comment dire, que tout ça est grotesque, mais j'ajoute, et j'ai terminé, promis, j'ajoute que pourquoi est-ce que personne ne fait de texte, Sophie ? C'est parce que vous allez avoir toutes les belles âmes, là, qui vont arriver en courant, en vous disant, mais c'est affreux, mais c'est horrible.
Ben, on va leur prendre leur domicile.
Ils vont vous dire, mais non, mais on ne peut pas.
Mais plus,
oh non, quand même.
Qu'est-ce
quand
que vous êtes venu avec
que ça, oui, c'est pour mon petit coup, après, justement, je vais en parler. Oui. Plus que ça, ce que vient de dire Régis de Castelnau, c'est qu'il y a aussi des complicités. Parce que les squatteurs en question, Sophie, ils doivent produire des documents par lesquels ils sont légalement occupants du lieu. Et ces documents, sont des factures. C'est-à-dire qu'ils se font délivrer des factures par des organismes qui peuvent être le service des eaux, le service de l'électricité, différentes choses.
C'est ça, ils ont affirmé qu'ils étaient propriétaires.
Et montrer qu'en fait, ils habitent là. Et de ce fait, il y a une forme de complicité de ces organismes qui délivrent des factures à des gens qui ne sont pas, au nom duquel le contrat n'a pas été établi. Et ça, j'aimerais bien savoir comment c'est possible.
Et des organismes publics, genre
Ouais, tous les moyens de preuve, puisque
mais
c'est
genre
toujours
Engie,
des... voilà. Alors je sais pas s'ils vérifient. Ouais, les téléphones. Les factures, justement, les fameux documents que vous pouvez vous faire fabriquer sur Internet, soit des faux, soit réellement des vrais documents, pour prouver votre domicile ou votre domiciliation.
Oui, mais enfin, ça, tout le monde sait que c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est qu'on fait tous semblant.
Parce que le juge va dire, moi je ne
sais
pas. Non,
mais oui, d'accord, mais là on fait tous semblant.
Bah, bien
sûr. Donc à ce moment-là, c'est la dérive
vous,
complète
hein.
d'un pays.
Non, mais absolument.
Oui.
Absolument.
Il faut appeler Geneviève, j'imagine que...
Oui, non, mais je souscris à tout ça, effectivement. Le droit de propriété est sacré.
Mais est-ce qu'on peut changer la loi ?
On peut toujours changer la loi. Attendez, Valérie, une loi, elle est faite, elle se défait.
Il y a le maire de la Théoule qui a écrit au président de la République pour lui demander que cette loi soit changée.
C'est une question de volonté politique, après, changer une loi, mais c'est quand même assez simple.
Hein. Patrick, alors expliquez-nous pourquoi vous êtes venu avec le Code civil.
Moi, je voulais ni un coup de gueule, ni encore moins un coup de cœur. Je voulais vous interroger, faire interroger tout le monde sur est-ce que l'état de droit est finalement compatible avec la démocratie ? Parce qu'en réalité...
On a deux heures pour répondre.
Bonne question. Ouais, c'est ça, vous avez deux heures et pas plus de 12 pages. Non, mais ça tombe bien qu'on ait Régis de Castelnau avec nous. Moi, je considère qu'en fait, je vous livre un scoop, hein, la peine de mort, elle a été rétablie en France, et la double peine aussi.
Pourquoi ?
Mais ce sont les victimes qui sont victimes de la peine de mort et des doubles peines. Parce que quand on voit le violeur récidiviste qui est relâché et qui, non content de revioler une jeune fille de 15 ans, la tue, c'est vraiment une double peine. Pour les familles, pour les victimes. Les gens, ils passent par pertes et profits. D'accord ? On a beau tenter de garder ces mémoires-là, on entend plus parler des pauvres délinquants ou criminels qui ont toutes les excuses de la société. Alors, je veux bien, mais pour moi, l'essentiel, et on revient à ce droit de propriété, l'essentiel, c'est la majorité. La majorité, elle élit ses représentants, de quelque bord qu'ils soient. C'est pas ça qui est en cause. C'est eux qui votent les lois, et les juges devraient appliquer ces lois. Or, moi, je constate une chose, on parle beaucoup du laxisme judiciaire. J'ai apporté ces deux bouquins-là, qui font partie d'une partie de ma collection de codes. Code de procédure pénale, 4000 pages. Code pénal, 4000 pages. Code du travail, Sophie, combien ? 7000 pages, je crois,
oui, quelque chose comme
dernière
ça.
Version. Enfin bref,
quand on veut l'avocat de...
Plus il y en a, plus on produit
mais
des textes,
sûr.
Moins ils sont appliqués, parce qu'il y a tellement de textes que plus personne. Par contre, là-dedans, les juges qui sont politisés, qui sont idéologues, avec la fameuse histoire du mur des cons, scandaleuse, etc., quelle justice on a ? Ils sont censés rendre des décisions au nom du peuple français. Ça commence comme ça, sur toute
et
décision.
Et pourtant, notre
justice,
garde des Sceaux avait dit ça au départ.
Voilà. Et alors, vous parlez du garde des Sceaux. Je ne vais pas me faire un copain de Dupond-Moretti, mais je crois qu'il n'est pas copain avec grand monde. Très sincèrement, oui, moi, je défends le peuple. Donc, s'il veut me qualifier de populiste, je l'accepte volontiers, parce que là, c'est des libertés fondamentales du peuple qui
et
sont
pourtant,
bannies.
Et pourtant, à la base, il était d'accord
désolé.
Avec ça.
Oui,
et
complètement.
Il est en train de retourner sa veste.
Et puis, j'entends aussi que pour lui, la prison n'est pas une sanction. Moi, je suis désolé. Pour le simple citoyen que je suis, la prison, c'est un moyen de sanctionner, de punir. pas agréable du tout. Deux, de mettre à l'écart pour protéger. Et trois, éventuellement, in fine, si on y arrive, réinsérer et permettre les réinsertions. Mais d'abord, on paye sa dette à l'égard de la société quand on a violé les lois, et il y a suffisamment d'articles là-dedans. Donc moi, je demande que les juges soient vraiment beaucoup plus contrôlés, parce que franchement, ça, c'est pas possible.
Il n'y a pas de contre-pouvoir.
On ne peut rien faire.
Il est dans la continuité de toute une vie, donc c'est logique.
Si vous écoutez ce que disent les magistrats et les syndicats de quelque bord qu'ils soient, peut-être que Régis me contredira, mais je ne pense pas, c'est que les juges sont relativement sévères en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a un problème de non-exécution sur un délai dans la justice.
Et M. Dupond-Moretti nous dit qu'il ne veut pas construire de place de prison. On nous dit qu'il y a des délais. On libère 15 000 prisonniers ou 13 500 pendant le confinement pour faire de la place, soi-disant, pour la Covid. Sauf qu'on n'a pas assez de place. Donc, très sincèrement, on se prend en main ou on ne se prend pas, parce que sinon on abdique aussi devant ça. Le dernier point, je disais, on arrive à une république des juges.
Ouais.
Et je suis désolé, les républiques des juges, dans l'histoire, pas seulement l'histoire de France, dans toutes les histoires de tous les pays, quand il y a eu des républiques gouvernées par des juges, ça s'est toujours très, très mal terminé.
Mais tous les Français pensent ça. Comment ça se fait que vous parlez d'or?
Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Vous pouvez commenter ce que vient de dire Patrick Mignon. Et puis, on aura le coup de gueule de Régis qui rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit d'une certaine manière, en tout cas à propos de notre garde des Sceaux.
C'est très mal.
Pardon ? Voilà, je vais déflorer. Mais non, pas du tout, pas du tout. Et Geneviève également, Götzinger, qui s'interroge sur la droite. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, nous continuons notre tour de table et on va reparler de l'insécurité. Et je vous rappelle tout à l'heure que André Bercoff recevra le professeur Didier Raoult. L'état de droit, peut-être une réponse, Régis, à ce que vient Patrick Mignon.
Ben, une réponse, je vous propose, Valérie, d'embrayer sur mon propre coup de cœur, coup de gueule, puisque moi, je balance, je commencerai en disant « je me marre » à propos de ce bon Éric Dupond-Moretti. Alors, il n'y a aucun problème, si vous voulez, entre avocats. Moi, je suis avocat honoraire. Donc, désormais, je ne suis pas concurrent du tout. Lui, pour l'instant, il n'est plus avocat. Mais voilà quelqu'un qu'on nous annonce « vous allez voir ce que vous allez voir ». Là, on fait venir quelqu'un de la société du spectacle et il s'est carbonisé très rapidement. Alors, Patrick a raison, il pointe un gros malaise. Et il y a une vraie crise de la justice. Et dans la mesure où l'insécurité est devenue le premier thème politique pour les Français de façon très spectaculaire, on en a parlé, Valérie, la semaine dernière, plus 26% dans les sondages, 75% de la population française pense que c'est le premier problème politique. Alors, laxisme, pas laxisme, c'est un débat assez complexe. Moi, j'étais de ceux qui disaient non, on exagère sur le laxisme. Je suis en train de changer d'avis dans les faits. Il y a des problèmes d'exécution, des problèmes de moyens. Mais ce que je constate, si vous voulez, c'est que l'arrivée de Dupond-Moretti, on nous avait dit, effectivement, vous allez voir ce que vous allez voir. On a une personnalité puissante, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il a été normalisé, mais très rapidement. Il a commencé par annoncer qu'il allait déposer des lois pour défendre l'environnement. Toutes ces lois existent. Il a dit ensuite qu'il allait faire ceci et cela en prenant des lois alors que ces lois existent déjà. Et puis, il est venu nous dire un certain nombre de choses, en particulier sur le sentiment d'insécurité.
Ouais.
Ce vieux truc que j'entends depuis 40 ans, il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité.
On va y revenir, vous empiétez sur notre débat.
C'est de dire qu'il est désormais carbonisé, il est carbonisé politiquement, il ne fera rien.
On verra.
C'est fait. Deux exemples, juste très significatifs. Très significatifs. Je veux dire, il nous dit dans un tweet, ce qu'a fait Valeurs Actuelles n'est pas raciste. Le lendemain, le procureur, sur ordre de l'Élysée, ouvre une enquête préliminaire pour injure raciste. Et d'une, un camouflé dans la figure. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a un cabinet qui remplit deux collaborateurs choisis par l'Élysée. Et il en prend une, il prend Charlotte Bilger, magistrate de grande qualité, la fille de Philippe.
Ah.
Elle est restée 3 jours. Elle a été foutue dehors. Et vous savez pourquoi elle a été foutue dehors? Parce qu'en tant que juge d'instruction, elle avait mis en examen Monsieur Bérou et sa bande, hein, qui ont effectivement détourné.
Ouais, mais ça,
c'est l'accusation, ouais. Hein, présomption d'innocence. Hein. Et donc, il s'est retrouvé. Elle s'est fait 3 jours. L'humiliation totale. Il a rien dit. Hein, et il est venu dire la France n'est pas un coupe-gorge. Et comme disait tout le monde hier, ben oui, il y a un gars à la gare du Nord hier.
Le lendemain.
Il y a eu un sentiment d'égorgement.
Bon, ouais, absolument.
Voilà. Je dis pour l'instant, c'est catastrophique. Alors, je souris, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a des idées. J'ai du respect pour ce qu'il a fait.
Mais ouais, il était formidable. Il a écrit un bouquin d'ailleurs très intéressant. On l'a reçu, nous, à Éthique. Mais je ne comprends pas cette espèce de revirement.
Bah, on va l'évoquer peut-être. Oui, Geneviève Bettinger.
Moi, je pense qu'il est, il est complètement dans un jeu de rôle avec Gérard Darmanin et que chacun a sa partition à jouer et que l'un et l'autre profitent à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a aujourd'hui un gouvernement qui est très largement déporté sur la, qui est très largement, laissez-moi finir
oui,
quand même,
c'est...
qui est très largement déporté sur la droite et il devient le candidat quasiment naturel de la droite. D'ailleurs, certains élus de droite éminents comme
Christian
Estrosi se rallient à lui. On va en parler après dans mon coup de gueule. Mais et il faut absolument qu'il y ait dans ce gouvernement quelqu'un qui réoriente et qui permette de maintenir quand même une partie de l'électorat de gauche, en tout cas socialiste, initialement socialiste, auprès d'Emmanuel Macron.
Et à mon avis, le rôle, c'est dur en même temps.
Et à mon avis, le rôle de Dupond-Moretti, c'est ça. Et tout son discours et sa polémique avec Gérard Darmanin.
Alors.
Avec Gérard Darmanin sur l'ensauvagement, sur l'ensauvagement non ensauvagement, c'est ce jeu de rôle là et cette partition là que doit jouer le garde des Sceaux.
Mmh. On croyait vraiment qu'il y avait une intention, parce que je pense qu'on avait une image de Dupond-Moretti, c'est ça le problème, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Et donc moi j'avais l'impression d'un type qui allait, on va voir ce qu'on va voir, les magistrats, ça va aller plus vite. Alors que tout d'un coup, il a basculé du côté, et c'était son rôle d'avocat, du côté des victimes. Et je crois qu'il y a une erreur de casting, parce qu'on s'est trompé sur la nomination de Moretti.
Non, je pense qu'il je pense que
Geneviève a raison, il est là pour faire du spectacle. La justice, il n'y aura rien qui se passera, c'est du spectacle, c'est tout.
Alors Geneviève, vous, c'était... c'est la droite qui vous désespère.
Bah, elle est en attente d'un sauveur suprême, alors bon, c'est bien de chanter l'international quand on est de droite, mais enfin, l'homme providentiel n'existe pas, et on a l'impression, on l'a vu ce week-end à Port-Marly, c'était quand même... dramatique. Qu'est-ce qui reste de ces journées? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'absence, la présence et absence
de François Baroin.
La capacité à admettre qu'aujourd'hui, finalement, les possibles champions de la droite sont en dehors du parti Les Républicains. Alors, c'est peut-être le problème des Républicains. Mais ils auraient peut-être intérêt, comme le dit très justement Damien Abad, à réaliser que quelqu'un comme Xavier Bertrand existe et qu'après tout, il peut être leur champion, même s'il n'est pas aujourd'hui au sein du parti. Plutôt que d'attendre désespérément François Baroin qui ne viendra pas parce qu'il n'a pas l'envie. Et pour être élu président de la République, il faut avoir envie.
Une envie chevillot quand même.
Bah oui, parce que quand on se présente, on risque d'être élu quand même. C'est un peu ça le problème, on risque d'être élu. Et ça, effectivement, Xavier Bertrand est celui qui le veut très fort. Et la droite aurait intérêt, les Républicains auraient intérêt à se rapprocher de lui, à mon avis.
Il y a aussi Rachida Dati qui se rapproche de Xavier Bertrand en ce moment, d'ailleurs.
Absolument.
Et qui a fait une très belle campagne et qui a été courageuse, on peut penser ce qu'on veut, qui a été extrêmement courageuse et qui a un bon sens à couper au couteau.
Alors, on va... C'est peut-être pas... Oui, le couper au couteau, c'est peut-être pas la formule idéale.
C'est pas idéal. Ce matin.
Allez, on marque une pause et on va revenir sur l'ensauvagement. L'insécurité est-elle un sentiment ou une réalité? L'IFOP a interrogé les Français. Ils sont majoritairement 70% estiment que le terme ensauvagement est justifié pour décrire l'évolution de la violence en France. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
L'insécurité est-elle un sentiment ou une réalité? Est-ce qu'il y a une explosion de la délinquance et de la violence gratuite en particulier? Quand on vous pose la question, vous répondez oui à 70%, c'est le sondage IFOP de ce jour. C'est un terme qui est justifié pour décrire l'évolution de la violence. 73% des Français estiment que les juges ne sont pas assez sévères en France. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick Mignon. La France est malade de son insécurité, c'est ce qu'estime le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce matin, il s'exprime dans Le Parisien avec Marlène Schiappa en disant que, eh bien, ils vont prendre les choses en main.
Elle est courageuse, Schiappa.
Oui. Quelques chiffres tout de même. Alain Boer, Christophe Soulez ont analysé ces chiffres. Hein. Les violences gratuites sont passées de 110 000 à 280 000 euros. Les séquestrations de 1 600 à 4 200. Et alors là, le chantage avec séquestration de 50 000 à 141 000 cas. Par an, donc c'est quand même des chiffres. Enfin, je pense qu'Alain Boer et Christophe.
Ouais.
Non, pas par jour.
Non, mais vous voyez, ramener ça au nombre de cas journaliers, en divisant ne serait-ce que par 500, allez, pour faire simple, hein, c'est colossal.
Mais d'où vient ce tableau de bord, Valérie? Parce qu'il n'y a pas de tableau de bord national.
C'est Alain Boer et Christophe Soulez qui analysent les chiffres, des chiffres. Il y a un graphique très, très précis sur un certain type de violence. Alors Gérald Darmanin a annoncé, vous avez raison de le souligner, qu'il donnerait les chiffres tous les mois. Sauf que vous avez vu la bataille de chiffres entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, qui ne parlent pas de la même chose. Bien et sûr. Effectivement, on peut...
C'est un peu le problème. Oui. En fait, il faudrait avoir un vrai tableau de bord de la délinquance dans ce pays, parce que, enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a de vrais actes qui justifient ce sentiment, mais c'est fondé sur une réalité. Et après, ça va devenir un thème politique qui va.
On a vu Marine Le Pen ce week-end qui parlait de barbares et de barbarie, et ce à quoi Gérald Darmanin répond, c'est pas parce qu'elle dit que le ciel est bleu que je vais dire qu'il pleut.
Il l'est pas.
Donc c'est vrai que ça va devenir, et c'est déjà devenu un thème politique.
Il faut arrêter d'utiliser Marine Le Pen comme un épouvantail.
Absolument.
Parce que franchement, c'est biaiser le débat. Sinon, on n'a plus qu'à se attendre que l'oracle, la pitié, Marine Le Pen dise quelque chose, et on essaye tous de se positionner par ailleurs. Donc c'est complètement stupide, ça.
Et en plus si on fait quelque chose, on dit que c'est le pénis. Donc c'est devenu même carrément faire référence à Marine Le Pen, on s'interdit de faire quelque chose. Donc, je suis désolée, je ne suis pas le péniste. Elle a dit des choses parfaitement justes, et elle a le courage de le dire, et depuis longtemps.
Oui.
Et malheureusement, elle a de plus en plus raison.
Oui.
Alors, c'est
Patrick Mignon.
Le sentiment d'insécurité, c'est de la com'. C'est toujours pareil, c'est de la com. C'est-à-dire qu'en fait, on confond la conséquence et la cause. La cause, c'est l'insécurité qui, comme l'a dit Geneviève Götzinger, crée un sentiment. Et crée un sentiment qui est tout simplement la peur, pas un sentiment d'insécurité, chose de fumeux, comme a dit Régis de Castelnau, celui qui s'est pris un coup de couteau à la gorge. On parle de coup de couteau à la gorge, on ne parle pas d'égorgement. Donc en fait, c'est un sentiment de coup de couteau qu'il a pris, pour être très précis. Mais bon, voilà.
Coup de couteau à la
Moi,
gorge,
je, dis, je rappelle une chose, le problème est simple, c'est comment confond le thermomètre et la maladie, c'est-à-dire la température et la maladie, on ne se pose pas les bonnes questions et on nomme pas les choses. Et je crois que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde.
Mais c'est quoi les bonnes
questions? La bonne question, c'est d'où vient ce problème de non-assimilation et de désassimilation? Et ne vous méprenez pas, je ne parle pas d'immigration, là. Je parle de non-assimilation et de désassimilation d'un nombre croissant de personnes dans notre société, quelle que soit leur origine. C'est-à-dire, moi j'ai eu la chance d'assister à une conférence à huis clos, à l'Assemblée nationale qui était donnée par Malika Sorel-Suter, à l'époque nommée par Sarkozy au Haut Conseil à l'intégration. Et elle nous a clairement dit, au départ, on avait un modèle assimilationniste, on n'y arrivait pas, on est passé à l'intégration, on n'en est plus à l'intégration, on en est à une forme d'aménagement, et aujourd'hui, on est, nous, sommés de nous adapter, c'est-à-dire que c'est nous qui devons nous adapter aux nouvelles exactions, aux nouveaux dealers, aux nouveaux caïds qu'il y a dans les quartiers, quelles que soient leurs origines, encore une fois. Hein. Je ne cible pas de catégorie en particulier.
Sauf qu'on ne s'adapte pas, sauf qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui.
Mais,
Régis de Castelnau.
Je voudrais dire un petit mot sur la question des statistiques. C'est un problème compliqué parce que il y a des biais nombreux à leur victimation, compilation des plaintes entre les mains de la gendarmerie et de la police, etc. Et c'est assez difficile d'arriver à des photographies. Et On arbitre le débat entre insécurité et sentiment d'insécurité en disant ben, il va falloir, c'est ce que vous avez dit Valérie, il va falloir qu'on ait vraiment les chiffres. Je ne pense pas que le problème se pose de cette façon-là. Le sentiment d'insécurité, c'est celui qui compte. C'est la façon dont les gens appréhendent la réalité, dont ils la vivent, hein, et qui les amène à souhaiter des choses. On est en démocratie, les politiques, et je pense à Dupond-Moretti, au lieu de dire « c'est un sentiment d'insécurité, l'insécurité est un fantasme », c'est pas tout à fait ces termes, mais c'était pas loin, c'est inacceptable. On traite les gens comme des demeurés, je l'ai dit sur vos antennes la semaine dernière. Non, hein, il faut prendre en compte ce que souhaite la population. Et c'est parce qu'il y a une réalité qui est tout à fait incontestable. Chiffrée, il y en avait plus il y a 10 ans, moins, c'est pas le problème. Aujourd'hui, on ne le supporte plus. Hein. Et ce qu'on ne supporte plus non plus, c'est la défaillance de l'État. Hein. Soit la justice, mais pas seulement, la police qui ne va plus dans les quartiers, alors, etc. Et c'est cette défaillance qu'il est indispensable que le pouvoir règle.
Oui, mais maître,
règle comment question, alors, effectivement, Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, ce matin, déroule un plan, une volonté d'agir.
Déjà, il y a une volonté politique.
Oui. Là, on mais sent, alors, on comme sent il a dit, il l'a dit dans l'interview, politique. Ça peut être de la com aussi.
Bah, pas de la part du garde des Sceaux.
Je pense.
Non, mais là on parle de Gérald Darmanin,
de la part du ministre de l'Intérieur.
Oui, mais
il y a
simplement
une volonté politique.
Non, mais juste, c'est indissociable parce que si les policiers sont très efficaces et l'intérieur est très efficace et qu'on arrive au tribunal et qu'on relâche immédiatement les jeunes ou pas jeunes qu'on a arrêtés, je crois que c'est ça le problème, c'est qu'ils sont obligés de travailler
c'est
ensemble.
Aussi la durée. Gérald Darmanin aussi. L'expliquait aussi très bien ce matin sur une autre radio, Valérie, pardonnez-moi, mais il expliquait très bien ce délai entre finalement l'acte délictueux et le jugement lui-même et donc l'application de la peine.
Bah oui.
En expliquant que finalement vous avez 22 ans, vous commettez un acte délictueux qui justifierait que vous ayez une sanction. Justement. Et puis finalement, vous allez passer en justice 2 ans et demi plus tard. 2 ans et demi plus tard, vous avez peut-être trouvé un boulot, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous êtes réinséré dans la société.
C'est pour ça que c'est un...
Ou pas. Ou pas, mais vous pouvez l'être.
Mais le problème, en plus, Geneviève, vous en avez 38 des coups comme ça, parce que les gars, c'est des multirécidivistes, ceux qui sont les plus nuisibles à notre société. Ils font pas un coup, puis après, ils attendent le jugement, ils se sont fait pincer, et puis ils se sont mariés, ils ont des enfants,
alors,
ils se sont calmés.
Alors la rapidité de la justice est fondamentale, l'immédiateté, et c'est pour ça que ça sert à rien. S'il n'y a pas cette immédiatement résolue...
Mais là, on en est, si je relis les propos de Gérald Darmanin, il dit si la France est malade, il faut prendre sa température. On n'en est plus à la température, là, il faut administrer le médicament.
On a les symptômes, mais exactement. D'abord, il faut savoir de quelle maladie il s'agit, la nommer, c'est ce que fait tout bon médecin. Il essaye de savoir, ça s'appelle le diagnostic. Et une fois qu'un diagnostic honnête est fait, et les médecins ne s'amusent pas à avoir à faire de mauvais diagnostics, parce que la sanction est immédiate derrière, nous, on se permet d'avoir de mauvais diagnostics. Donc notre société va continuer d'être de plus en plus gravement malade. Moi, je pense une chose, c'est que ce que vous dites est très vrai, sauf que cette derrière, ça montre quoi? Ça montre le vide de toute volonté politique.
Ah mais je pense c'est l'inverse. Je pense que ça va être, le sujet majeur de la prochaine élection présidentielle.
Laissez-moi finir.
Et que donc, à partir du moment où ça va être le sujet sur lequel on peut perdre une élection présidentielle, à partir du moment où le gouvernement et Emmanuel Macron a parfaitement conscience de ça, il va s'en saisir à bras le corps dans les 18 mois qui viennent. C'est une évidence. Parce qu'on ne gagne pas une présidentielle sur le seul thème de la sécurité. Il faut avoir le reste, faut avoir du background, faut avoir du coffre. Marine Le Pen a perdu parce qu'elle avait cet argument en étant d'armes, elle n'avait pas le reste, elle n'avait pas la compétence. En revanche, on peut perdre sur la sécurité, ça a été le cas de Lionel Jospin il y a quelques années. Donc ça, Emmanuel Macron en est parfaitement conscient, et moi je suis persuadée que dans les semaines qui viennent, comme c'est un sujet, votre sondage l'a montré, de préoccupation très fort des Français, il va y avoir des mesures très puissantes qui vont être prises.
Ça revient sur ce que vous disiez sur la droite quand vous avez donné votre coup de gueule tout à l'heure, Geneviève, c'est que ce qu'il faut, c'est pas choisir un homme, une femme providentielle, il n'y a pas de messie. Je suis désolé. Ce qu'il faut, c'est un programme. Et quand on veut faire un programme, il faut une vision. Laisse-moi terminer, Sophie. Je sais, j'ai participé à plusieurs endroits à l'élaboration de programmes. Ce qu'il faut, c'est derrière une vision qui soit partagé, puisqu'une nation, je rappelle que c'est une communauté, avant la définition habituelle du territoire, de la langue, de la culture, etc., il y a aussi la communauté d'espoir partagé. Il faut donc une vision partagée de l'avenir vers lequel on veut aller. C'est peut-être très idéaliste et utopiste, sauf que si vous n'avez pas cette vision et une capacité d'union des forces, je parle d'union des forces, je ne parle pas d'individus ou de femmes ou d'hommes providentiels, eh bien, vous n'aurez pas la volonté politique. Vous avez raison, Geneviève. C'est pas sur la sécurité qu'on va pouvoir gagner une élection, mais il faut derrière que cette insécurité soit prise en compte et qu'il démontre par les actes qu'il y a une vraie volonté.
On attend les actes.
Parce que Macron est très fort en com. Sarkozy avait fait un coup de com colossal sur la dalle d'Argenteuil avec son Karcher. Et ça lui est retombé dessus parce qu'il n'a rien fait là-dessus.
On a une auditrice en ligne, Sylvie, qui nous appelle des Landes. Bonjour Sylvie.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Bonjour.
Donc déjà, moi je voudrais dire que sentiment, il faut arrêter. On est vraiment dans une insécurité. Avant ma petite histoire, je voudrais vous dire, moi je pense qu'en fait, un tort a été de retirer le service militaire. Les jeunes, ça leur a fait du bien, des coups de pied aux fesses, les règles, tout ce qui va avec la société. Ma petite histoire, c'est que ma fille devait aller à la fac de Bordeaux. Donc, elle a passé 2 jours à Bordeaux pour voir un petit peu, pour chercher un appartement. Ça a été un enfer pour elle. Elles étaient deux, c'est insultes, tripotage, toute la journée, et que ça soit des jeunes, des vieux. À côté de la fac, des rues entières de dealers qui les insultent, qui essayent de les attraper. Mmh. Les filles ont peur de sortir la nuit. Et ben du coup, vous savez quoi ? Et ben on a annulé la fac de Bordeaux. Ma fille ne veut même plus aller faire un tour à Bordeaux.
Ouais.
C'est terminé. Donc du coup, on a été obligé de changer de fac et on est retourné dans le Lot-et-Garonne.
Et vous parlez de l'universalité de l'éducation, de l'instruction et tout, c'est scandaleux. On peut pas.
C'est pour ça que la France
dans cet état-là, c'est pas possible. Le chantier
est immense. Je rappelle aussi ce que Rafik Smati nous avait raconté. Il est allé, lui, à Marseille, dans une cité. Il y a des gens armés qui attendaient à l'entrée de la cité, qui l'empêchaient de rentrer. Donc on a des situations. J'entendais ce matin Christine Bouillot qui évoquait également Toulouse. Il y a des situations qui sont aujourd'hui extrêmement compliqué pour employer un euphémisme, mais je ne sais pas comment Gérald Darmanin va s'y prendre.
Oui,
quand il dit la drogue, c'est de la merde, oui, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, comment on fait Sophie, je voudrais que Régis.
Qu'il y a sur les trottoirs.
Régis.
Oui, alors, j'entends bien. Je pose la question des moyens. Est-ce que Darmanin va faire quelque chose? Avec quoi?
La justice est
en déshérence.
Et la police aussi,
hein. Et il y a des choix, parce que la volonté politique, c'est le faire aussi, hein. C'est pas seulement les enjeux d'élection. Ah ben si je parle de l'insécurité, il m'arrivera pas ce qui est arrivé à Jospin. C'est veut-on faire quelque chose? Je rappelle qu'à Grenoble, hein, quand Darmanin a voulu montrer les muscles, hein, et qu'il a fait une opération certes spectaculaire, qui a permis la saisie de 2 scooters, hein, on allait voir ce qu'on allait voir. Hein, le maire de Grenoble, Monsieur Piolle, a dit il ne faut pas provoquer les dealers. Attendez, à Bordeaux, la municipalité qui a été élue par les bobos de Bordeaux, elle ne voit aucun inconvénient à ce que le centre-ville soit mis en coupe réglée par les manieurs de couteau. Enfin, attendez, au bout d'un moment, volonté politique et moyens, et la justice, Sophie, la justice, 2 ans et demi après, mais c'est un problème de moyens.
Oui. Alors, un tout petit mot quand même, pour relativiser. Le monde entier est sujet à cette violence. Nous sommes en train de changer de société. Aux États-Unis, c'est épouvantable. Les flics, la violence d'ailleurs entre la police, les manifestants, etc. Nous assistons quand même à un phénomène mondial. Il faut relativiser aussi. Partout dans le monde. D'abord, il y a cette visibilité, ces réseaux sociaux, ces chaînes en continu.
Donc vous êtes en train d'accréditer le sentiment ?
Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, sans exception. Mais je voulais juste relativiser en disant que nous ne sommes pas le seul pays où ça arrive.
Et qu'on
a quand même un vrai problème de drogue partout dans le monde, un vrai problème de révolte, un problème médiatique qui amplifie tous les événements, avec des réseaux qui se constituent de criminalité qui sont très difficiles à déjouer.
Mais enfin,
vous citiez les États-Unis, mais regardez par exemple l'exemple de New York qui, dans les années 80,
ça a été génial.
Giuliani
cage d'escalier par cage d'escalier, ouais, fenêtre,
ça,
par,
fenêtre par fenêtre,
le verre brisé,
ouais,
etc.
C'est moins bien.
Et ça, je... ça a fonctionné.
Ouais.
Ça
pas.
A fonctionné.
Et
donc, quand
fonctionné.
Vous avez une volonté politique qui peut être la volonté d'un édile comme la volonté au plus haut niveau, ça fonctionne,
ça
le tout et de le vouloir.
Nous
ça
ne parlerons pas de la maire de Paris.
Ça a fonctionné parce que le peuple
d'en parler
suivait.
Non, c'est pas ça, c'est que c'est très parisien. Mais c'est vrai que votre coup de gueule, Geneviève, concernait la ville de Paris qui est en train de s'enlaidir.
Non, mais vous pouvez pas savoir ce que c'est. C'est même pire que s'enlaidir.
Qui est
la saleté repoussante.
C'est pour ça que je vous ai dit que pour la mère de la drogue, il fallait pas demander à Madame Hidalgo, j'ai dit ça.
Allez, on se retrouve. On se retrouve dans un tout petit instant. On va marquer une pause. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. André Bercoff qui reçoit le professeur Didier Raoult. Donc, c'est à suivre sur Sud Radio à partir de midi. Je voulais qu'on parle tout de même d'autre chose. Alors, je lis quand même certains témoignages, en particulier sur Bordeaux. Pour Bordeaux, Patrick nous dit « Je confirme, nous y étions avec ma compagne il y a un mois. Nous cherchions un resto et de la gare à la place des Victoires. Nous sommes aperçus du changement de population. Du coup, on s'est replié en attendant, juste en face de la gare. Chaban-Delmas doit se retourner dans sa tombe. » Donc, il n'y a pas que Paris où on remarque...
Vous avez vu Dijon. On règle les... On se tire dessus à coups de Kalachnikov et de fusil d'assaut. Et c'est qui est-ce qui résout le problème? Le maire? Non. Le préfet? Non. Qui le résout? Les imams. Convoque les deux communautés qui sont.
Mais là
toutes les
c'est
deux.
Pas. Sur Grenoble, il semblerait que ce soit un clip, hein, un rappeur.
Oui,
qui
je vois bien, mais moi je parle de Dijon.
Dijon. Tu... Vous parlez, il y avait encore autre chose. Parlons des masques. Masques obligatoires en ville. Alors, si vous voulez nous appeler pour témoigner, 0826-300-300. En tout cas, le Conseil d'État a décidé hier soir, fort tard d'ailleurs dans la soirée, de laisser les préfets rendre le port du masque obligatoire dans les villes entières, à condition donc que le périmètre soit délimité. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est une espèce de jugement.
C'est un peu
dur en même temps. C'est-à-dire que c'est des villes entières, mais il faut que les zones soient délimitées.
Voilà, il ne peut pas laisser on peut pas laisser la main au préfet pour faire quelque chose de général.
Non, mais c'est pas à tort, parce que je suis désolée. D'abord, on a créé, entre parenthèses, des nouveaux préfets maintenant, des préfets qui vont être à l'application de la réforme. C'est n'importe quoi, c'est encore l'administration qui prend le pouvoir. Je trouve ça pas mal de délocaliser le port du masque, parce qu'on connaît quand même sa région, et moi je pense qu'il y a même les maires qui devraient réagir. Tout le corps médical est d'accord sur une chose, je suppose qu'on demandera à Didier Raoult, le masque en plein air, sauf à des toutes petites rues ou le samedi, etc., est inutile. Et je pense qu'il va falloir faire confiance au bon sens des gens. On ne peut pas continuer à prendre les gens pour des imbéciles, à donner des consignes qui ne sont pas possibles d'être respectées, y compris dans les entreprises. Toutes les consignes qu'on donne sur le port du masque, quand vous êtes dans une PME qui est toute petite avec un couloir, et une grande entreprise avec de la clim à la défense, je veux dire, ce ne sont pas les mêmes règles. Donc ça, c'est terrible, il y a un refus de prendre les Français, de les considérer comme responsables, donc du coup, ils deviennent irresponsables.
Régis, sur ce port du masque.
Deux petites remarques. Une remarque juridique, le Conseil d'État soutient toutes les décisions du gouvernement, aussi illégales soient-elles depuis le début, depuis le mois de mars. Deuxième observation.
Aussi illégale soit-elle, c'est-à-dire.
Alors, laissez.
Non, on ne va pas, si vous voulez, on ne va pas entrer dans
le détail. Quand même, on ne va pas.
Non. Quand je dis illégal, ce n'est pas illégitime. Je dis illégal. C'est-à-dire que le cas.
C'est encore plus grave, mais oui.
N'est pas bon. Bon, toujours est-il que.
C'est grave. C'est vrai que vous portez une accusation.
Oui, quand même.
Oui, non. Ben, si vous voulez, les demandeurs au recours qui les ont formés devant le Conseil d'État, portaient pas d'accusation, ils disaient c'est pas légal, etc. Mais peu importe, je veux dire, j'ai pas dit illégitime, j'ai dit illégal. Bon, illégitime, la deuxième observation, elle est que le support de cette obligation, c'est la contrepartie, c'est l'amende. Et là, je confirme que le décret qui fixe l'amende à 135 euros par référence, etc., je rentre pas dans le détail, est également illégal. Et que normalement, si on va devant le juge du tribunal de police, les amendes devraient sauter. C'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi.
Bon, alors allez-y
Je termine sur une observation. Je constate une fois de plus que les forces de l'ordre dont on parlait tout à l'heure, en disant qu'elles étaient peu intervenantes, on a vu après la victoire, la défaite du PSG, etc., etc., là, elles sont mobilisées. Ils sont partout, et ça tombe.
Ah oui, puis c'est pas dangereux. Quand ça tombe, c'est pas dangereux.
Et les amendes tombent. Je rappelle qu'il y a eu 1 million d'amendes pour les infractions au confinement en France. Il y en a eu 9 000 en Grande-Bretagne. Donc c'est tout. Voilà, nous, une fois de plus, on recommence avec cette vision et cette façon. Et je rejoins la remarque, on traite les Français comme des mineurs, quoi, comme des débiles.
Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ne portent pas le masque là où ils devraient le porter.
Ah ben, oui, mais le problème...
Celui qui avait une trachéotomie et puis qui a enlevé son masque pour pouvoir être compris, ben, il a été verbalisé.
Vous allez trouver toujours l'exception qui confirme la règle. Sophie, oui. Peut-être Geneviève.
Et les gars qui rentrent dans les restaurants avec des fusils d'assaut et tout, c'est n'importe quoi.
Là, on mélange un petit peu tout.
On
est dans la caricature.
Non, mais on est sévère avec les faibles, c'est vrai, et laxiste avec les forts, franchement.
Oui, mais ça, c'est ça. Alors, Geneviève, comme toujours, non, ce que je veux dire, c'est que le Conseil d'État a pris, c'est fondé sur la simplicité de la compréhension, donc on le porte partout, voilà. Mais en fait, on sait pertinemment, et les médecins disent que finalement, le port du masque est utile où ? Il est utile en espace confiné, il est utile si vous restez dans un espace confiné pendant un quart d'heure avec quelqu'un en face à face, en vous parlant ou en chantant. Voilà, il n'est pas utile dans la rue quand vous croisez quelqu'un. Donc, on a une décision qui est quand même un petit peu absurde aussi.
Il y a un gros problème. Un, c'est que sur toute cette histoire, depuis le début du confinement en mars, etc. Ben, le gros problème, c'est la confiance. Voilà. C'est-à-dire le mensonge gouvernemental qui a consisté à dire le masque est inutile et Madame Sibeth Ndiaye qui disait c'est même compliqué à mettre.
Bah, elle a pas tort.
Elle a pas franchement, tort.
Avec le recul.
Ouais, bon, enfin, peu
importe. Franchement, quand vous les voyez sur le menton.
Oui, mais tout le monde fait n'importe quoi. on finit quand même par apprendre à s'habiller, à mettre une veste dans le bon sens. Je veux dire,
Bon article d'une double page dans Le Monde sur les dangers du masque, c'était hallucinant. Faut pas l'oublier, faut pas le mettre dans sa poche.
Alors, laissez terminer 4 heures.
Ce que je veux dire, donc, il y a eu ces problèmes de mensonges. Le masque n'est pas utile quand on n'en avait pas. Il devient obligatoire et taxable et avec amende à la clé quand on en a. Donc déjà, ça fausse la compréhension. Puis surtout, c'est la confiance qu'on a. Les gens en France n'ont plus confiance dans grand monde, en tout cas pas dans le gouvernement et dans l'autorité de ce gouvernement et dans ce qu'il dit. Le gouvernement, pour tenter de se légitimer, se réfugie derrière un conseil scientifique et confie les décisions politiques, et dans lequel on n'a pas plus confiance, vous avez raison, parce qu'il y a des contradictions qui sont levées. Donc très franchement, il faudrait un moment ou un autre à ce niveau-là pour que les gens appliquent les règles, qu'on redonne confiance aux gens.
Alors je voudrais finir sur une note positive. Une note positive quand même. C'est un virus qu'on ne connaît pas du tout. Les médecins vous disent dans les hôpitaux. parce que dans les hôpitaux, on avance un petit peu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait croire que le masque n'était pas efficace, qu'on se rend compte qu'il l'est d'un tel endroit. On progresse un peu. Ça n'a pas été géré tellement mieux ailleurs dans le monde, excusez-moi.
En Corée, Corée, Taïwan. Corée, Taïwan.
Oui, et puis la Chine aussi, c'est très bien. Débrouiller là.
Sophie, mais on ne connaît pas ce virus, donc je ne vois pas en quoi c'est une note optimiste, parce que justement, inquiétant.
On progresse.
Un auditeur nous. Oui ? Un mot, Régis ?
Non, on n'a plus le temps. Moi je toussais en.
Ah, d'accord. Bon, alors taisez-vous parce que c'est fini, voilà. Et pour vous, c'est quand le port du masque en plateau ? Moi, je serais pour, mais il paraît que ça coupe, ça change le son, mais moi, je ne vois pas.
On est à plus d'un mètre.
Je ne vois pas pourquoi on ne porterait pas.
On a la fenêtre grande ouverte, nous sommes espacés d'1,50 m.
Oui, mais vous criez et vous postillonnez les uns et les autres. Allez, on se retrouve, nous, demain. Et dans un instant, c'est André Bercoff qui sera là avec le professeur Raoult. À demain. Très bonne journée sur Sud Radio.